comme il y a 2 ans, nous faisons une émission State of the Art of the Web à une heure où les préoccupations parfois fantasmées hein, sur l'empreinte écologique du numérique, les besoins en termes de télétravail et télééducation, l'accessibilité, les opérateurs en situation de monopole et la régression de l'interopérabilité démontrent combien cette technologie grande publique qu'est le web reste très fragile. Nous avons le plaisir de le recevoir par satellite, Jérémy Patonnier, Web Advocate pour Zenica, cabinet d'innovation technologique managériale et organisationnelle, orateur passionnant et passionné notamment à Paris Web, co-auteur avec Rudy Rigaud du livre « Projet responsive web design » paru en 2013 aux éditions Erol, et enfin capable de rêver en SVG, et ceci sans IDE ou éditeur WYSIWYG. CPU carré petit utile. Comment es-tu venu au web ?
Oh là, ça date. Moi, je suis un vieux du web. Ça fait plus de 20 ans maintenant que c'est mon métier. Moi, j'ai découvert le web fin des années 90. Mmh. J'étais étudiant à l'époque. J'étais en train de faire des études pour devenir infographiste dans l'imprimerie. Je me destinais à aller bosser dans l'édition. Et puis, au détour d'un cours d'infographie, justement, j'ai un prof qui nous montre un navigateur web et qui nous dit voilà, il y a un truc qui s'appelle le web, Internet. Vous y trouverez plein d'informations sur tout et n'importe quoi. Trop cool. moi, je découvre ça à ce moment-là. Hein, mm-hmm. J'en étais à découvrir l'ordinateur en même temps. Hein, donc voilà. Et donc, en fait, tout au long de mes études, je découvre ce que c'est, je m'y intéresse, je fais des petits projets autour. Et c'est à la même époque où il y a toute cette bulle spéculative qui se développe fin des années 90 sur le web qui émerge au niveau du grand public, etc. Et donc, bah, moi, j'arrive à la fin de mes études en mode « Mais ce média est trop génial, je veux faire ça, c'est trop cool !» Et donc, voilà, à partir de l'année 2000, je commence à bosser en tant que web designer. Et j'ai pas arrêté depuis de faire du web.
Alors c'est intéressant parce que tu viens de l'imprimerie. Bon, je suppose que t'as pas fait de la typographie au plomb et tout ça, mais tout ce qui est les domaines de micro-typographie, d'usage de la police, de rythmique même d'une colonne et tout le reste, tu l'as vu s'implémenter au fur et à mesure dans les CSS. Donc c'est quelque chose qui te parlait de par tes études.
Ah ouais, mais ça me parlait tellement que même au tournant des années 2010, avec quelques amis, on a fait un petit site web qui s'appelait typographisme.net, où on parlait de ça, de comment on fait de la typographie sur le web. C'était vraiment un sujet à part entière, parce qu'effectivement, par rapport à quand on vient du print, où on peut vraiment tout contrôler de manière ultra fine, le web, c'était assez rustique, on va dire. mais justement, c'est hyper intéressant d'avoir vu ça évoluer. Et aujourd'hui, on peut faire des choses absolument incroyables d'un point de vue typographique sur le web, quoi.
Entrons directement dans le cœur du sujet qui est de faire donc ce bilan State of the Art of the Web en 2021. Est-ce que tu connais quelqu'un qui connaisse 90% des propriétés CSS?
Alors, est-ce qu'il faut que lui me connaisse?
Oui. D'accord. Mais sinon, oui, je pense qu'on peut citer plein de gens, effectivement.
C'est ça. Moi, je connais des gens de nom. Il y a des gens que j'ai croisés, mais voilà, on s'est parlé peut-être une fois ou deux, mais ça s'arrête là. C'est essentiellement les gens qui travaillent sur la spec, hein, CSS, hein, faut dire les choses. Pour les gens qui travaillent avec CSS, 90% des propriétés, ça veut pas dire grand-chose en plus. Les propriétés de CSS, il y en a près de 400, je crois, actuellement, un truc comme ça. Certaines sont obsolètes, certaines sont en cours de développement. Je pense pas que
sans compter toutes celles qui n'ont pas été implémentées ou certaines qu'on trouve que dans les photocopieurs.
Et puis celles qui ont été supprimées aussi parce qu'il y en a quelques cas. Mais surtout, en fait, c'est surtout ça a pas de sens en fait de réfléchir comme ça. Moi, je m'estime étant quelqu'un qui connaît extrêmement bien CSS. Je me suis même pas amusé une demi-seconde à évaluer ma connaissance des propriétés parce qu'on s'en fout. Déjà parce qu'il y a les propriétés, c'est une chose, mais après il y a toutes leurs valeurs et après t'as une combinatoire de l'espace et c'est plutôt la combinatoire qui est importante parce que une propriété toute seule ça fait pas grand chose. C'est le fait d'en utiliser plusieurs en même temps qui fait des trucs sympas, quoi. Donc voilà, je connais des gens très 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 doués, peut-être plus doués que moi, il y en a aussi. Faut pas déconner. Mais voilà, quoi. C'est après, CSS, il y a trop de choses pour dire on connaît. Moi, je préfère être plutôt en mode je sais tout ce que c'est faire CSS. Après, la propriété exacte pour le faire, je la connais pas forcément. Et j'ai mon go-to qui est MDN, où il y a toute la documentation qui va bien et j'y passe mes journées dessus, quoi.
L'ex Mozilla Developer Network, qui est devenu indépendant.
Tout à fait.
Qui est coédité d'ailleurs actuellement par pas mal de gens de chez Mozilla et de Microsoft.
Et de Google et de Samsung depuis 5 ans maintenant. Mm.
Et qui est agnostique d'ailleurs. Hein.
Tout à fait.
On trouve même des trucs qui sont vraiment propres à Chrome et tout ça. C'est vraiment intéressant.
Ben moi, j'ai fait partie de l'équipe qui a développé MDN, justement, au début comme contributeur. Et j'ai même, à la fin, passé 2 ans employé chez Mozilla pour travailler spécifiquement dessus. Et c'est à cette époque-là, justement, qu'on a fait un peu le mouvement de dire... on avait déjà fait ce travail de dire on veut une documentation qui est totalement agnostique. C'est pas la documentation du web de Firefox, c'est pas le sujet, c'est le web, point barre. Et c'est au moment où j'y étais qu'effectivement, donc Google, Microsoft, Samsung et W3C se sont joints à nous pour dire s'il faut qu'on en fasse une ressource commune.
Mmh. Et tous les sites qui vont à côté, puisque c'est quand même assez complexe. Ça prend aussi des informations sur un autre site de référence qui s'appelle canius.com et tout ça.
C'est l'inverse. C'est plutôt Canius qui utilise les données de MDN.
Mais ma question de base, donc, sur connaître X% des propriétés CSS ou des balises HTML ou que sais-je, est-ce que le web est-il devenu trop complexe en 2021 à maîtriser facilement? Quand on s'est lancé, on pouvait facilement créer une page. Actuellement, est-ce que c'est faisable ?
Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis, et ça, en fait, ça va beaucoup dépendre de ce qu'on appelle maîtriser. Et qu'est-ce qu'on entend par complexe ? Et complexe pour qui ? Il y a une réalité, c'est que depuis 30 ans que le web existe, la surface d'API du web, que ce soit dans HTML, dans CSS, dans JavaScript, dans SVG, etc., elle n'a fait que augmenter. Donc, de ce point de vue-là, oui, effectivement, le web devient tous les jours plus complexe, de ce strict point de vue-là. Sauf que le web, il vient aussi avec une promesse qui est quand même assez particulière, c'est que tout site web qui a été créé il y a 30 ans, eh ben, en fait, il continue de fonctionner et on peut toujours le lire et l'utiliser comme il y a 30 ans. Et c'est une promesse qui est énorme et qui est une contrainte incroyable. C'est sans doute la pire contrainte pour les constructeurs de navigateurs. C'est que comme le web n'est pas versionné, tout doit continuer à marcher. Tout ce qui est standard, hein, comprenons-nous bien. Et donc, ben, tu peux toujours faire du web comme il y a 10, 20 ou 30 ans si tu as envie. Et ça marchera parfaitement bien, aucun problème. C'est juste que y a d'autres outils qui sont à disposition. Et effectivement, on peut faire des choses plus complexes. On peut faire des applications carrément, hein, et plus simplement du document. Donc, de ce point de vue-là, oui, forcément, si tu veux pouvoir exploiter l'intégralité de ce que c'est faire le web, ouais, c'est compliqué, de ce point de vue-là.
Et construire un navigateur web 2.0 actuellement est-il devenu impossible ?
Alors, c'est pas impossible, mais c'est très compliqué, parce que, justement, pour la raison que je viens d'énoncer, ce qui est de dire que tu crées un navigateur aujourd'hui, ce navigateur doit pouvoir faire fonctionner des sites web qui ont été créés il y a 30 ans. Et donc, il faut que tu, si tu veux vraiment être l'équivalent aujourd'hui d'un Google Chrome ou d'un Mozilla Firefox, il faut que tu, effectivement, investisses une somme de temps, de ressources, et donc d'argent qui est extrêmement importante. Faut bien comprendre ce que ça veut dire fabriquer un navigateur et le maintenir. Aujourd'hui, que ce soit Mozilla, Google, Apple, qui sont les trois principaux constructeurs de moteurs de rendu web. Juste créer ces moteurs de rendu web, c'est grosso modo une équipe d'environ 500 à 1000 personnes pour créer ce genre de logiciel. C'est l'équivalent des jeux AAA, hein. C'est le même genre d'équipe qu'il faut, quoi. Mm. Donc effectivement, si tu veux créer un navigateur from scratch, il faut beaucoup de monde, beaucoup de ressources. Après, ce qui est aussi très intéressant, c'est que tous les moteurs de rendu actuels sont open source. Donc, tu peux reprendre des bases qui existent à droite à gauche et reconstruire ce que tu as envie de reconstruire. Ça marche aussi. Parmi les projets les plus intéressants que j'avais vus, c'était il y a 6-7 ans, le projet Cerveau chez Mozilla, qui avait tenté ça, de dire qu'est-ce que ça veut dire réécrire un navigateur from scratch pour justement pouvoir tester des nouvelles façons de faire du rendu, tester d'autres approches algorithmiques, des choses comme ça.
Et même de nouveaux langages comme Rust,
même de nouveaux langages, nouveaux approches. Fait, oui. Mm. Bah Rust, justement, il a été construit avec l'idée de fabriquer un navigateur et donc de s'épargner tous les problèmes que amenait C++, quoi, pour un navigateur. Et donc, bah, ils se sont rendus compte que, effectivement, ça nécessitait plusieurs centaines de personnes pour écrire un navigateur from scratch. Voilà. Donc, effectivement, si aujourd'hui on veut recréer un nouveau navigateur à partir de rien, c'est un énorme investissement. Et ce qui est d'autant plus problématique, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de modèle économique viable pour les navigateurs. Mmh. Aujourd'hui, donc Apple et Google, pour eux, le navigateur, c'est un produit d'appel ou un produit de support. C'est tout. Et pour Mozilla, eh ben, c'est très compliqué. Et justement, en ce moment, ils ont des gros problèmes de pognon.
Et d'ailleurs, ils se sont séparés de l'équipe Cerveau. Le code source de Cerveau, d'ailleurs, maintenant, est géré par la Fondation Linux. Et on peut essayer, d'ailleurs, ce navigateur. Il est vraiment pas toujours fonctionnel. D'ailleurs, le site de CPU, vous n'aurez pas le player audio.
C'est pas le but. Hein. Il a pas pour objectif d'être fonctionnel, Cerveau. Il a pour objectif d'explorer des façons de faire.
Et ça permettait justement de rapatrier des pièces, les utiliser dans d'autres navigateurs qui, eux, sont mainstream.
Tout à fait.
Il n'y a pas eu que Mozilla, hein, justement, qui en a profité.
Non, non. Samsung aussi, beaucoup.
La plupart des projets industriels de sites web que je vois passer passent par des préprocesseurs CSS, des transpilers TypeScript, JavaScript. Est-ce qu'on n'est pas un peu allé dans l'over-engineering des sites web ?
C'est une bonne question. C'est un problème qui touche spécifiquement les gens dont c'est le métier de fabriquer des sites web. Hein. Si c'est pas ton métier, si tu fais ça pour ton plaisir ou parce que tu as envie de créer ton propre site web, faut pas te sentir obligé d'utiliser le moindre outil. Hein. Ça, c'est pas du tout une obligation. Par contre, effectivement, ces outils, beaucoup de ces outils ont été créés à une époque où il y avait un énorme besoin de compenser des écarts ou des manques qui étaient dans les navigateurs ou des contraintes qui étaient liées à la nature des langages eux-mêmes. Et donc, pour ça, on s'est mis à mettre en place des outils. Et certains outils sont extrêmement pertinent et très nécessaire dans une démarche professionnelle. Je prends l'exemple d'un outil comme Babel, par exemple. Babel, qui est un transpiler qui va convertir du JavaScript en JavaScript, ce qui vous permet d'utiliser, par exemple, les toutes dernières innovations du langage et de vous assurer que le code qui va être réellement utilisé par les navigateurs sera rétro-compatible avec des vieux navigateurs qui n'ont pas encore toutes ces jolies fonctionnalités JavaScript. Bon, bah ça, c'est très utile, justement, parce qu'il y a des problématiques, encore une fois, industrielles derrière. Par contre, il y a des choses qui sont beaucoup plus discutables. Typiquement, TypeScript, c'est un exemple typique de ce que, personnellement, hein, ça me touche que moi, je trouve très discutable. TypeScript, c'est une autre façon d'écrire du JavaScript en ayant des annotations de type for. Bon. Alors, conceptuellement, moi, je fais partie des gens qui disent « c'est complètement con », dans le sens où faire du typage for, c'est intéressant quand tu fais de la gestion mémoire. Typiquement, quand tu fais du développement système, tu fais du C++, tu fais du Rust. Bien sûr que tu as besoin de connaître tes structures mémoire, de les gérer parfaitement pour être sûr que tu fais pas n'importe quoi avec. En JavaScript, on s'en fout. Il y a un garbage collector qui fait la gestion mémoire pour toi. Tu n'as aucun outil en JavaScript pour faire toi-même de la gestion mémoire. Et donc, ce faisant, on va plutôt utiliser des outils de type page for pour se mettre des barrières, pour faire du linting, pour faire de la vérification en amont, pour essayer de produire du code de meilleure qualité. Là, je viens de faire des guillemets avec mes doigts. Ouais, pourquoi pas. Moi, très souvent, ce que je dis aux gens, c'est oui, faites du TypeScript si vous voulez, mais apprenez à utiliser JavaScript. Apprenez à comprendre le langage, comment il fonctionne, c'est quoi ses fondements. Et vous allez voir que, ben, finalement, un outil comme TypeScript, c'est bien, mais ça fait pas du tout ce que tu crois que ça fait. C'est pas du vrai typage, c'est du faux typage. C'est juste des contraintes de compilation, et c'est tout. Par exemple, une erreur commune avec TypeScript, c'est de croire que ça vérifie vraiment tes types de faire du TypeScript. Cette vérification, elle est faite à la compilation, elle est pas faite à l'exécution. Et donc, si à l'exécution, t'as une ressource externe qui t'injecte n'importe quoi, bah t'auras la même erreur que si t'avais pas eu de TypeScript. Donc en vrai, ça t'épargne pas vraiment les problèmes. Ça te donne un peu l'illusion.
Après, je comprends. Moi, je ne fais pas de TypeScript. Je m'y suis intéressé et j'espère peut-être un jour m'y remettre. Je comprends tout à fait qu'après, ça permette de faire une cohésion d'équipe sur la qualité de code et ça permette d'accéder à l'autocomplétion dans l'IDE et tout le reste. Donc c'est
oui, tout à fait,
ça amène des choses aussi par
oui,
ce
oui,
côté-là.
Oui, oui. Mm. Alors, moi je vais être très très transparent. Mm. Moi je suis contre une utilisation aveugle de TypeScript. Mm. Cependant, il y a des très bonnes idées dans TypeScript et ça permet de faire des choses qui sont extrêmement intéressantes. En particulier, moi, parmi les choses que j'aimerais bien voir arriver réellement dans le langage JavaScript, par exemple, c'est effectivement certaines annotations de type qui soient évaluées justement à l'exécution pour prévenir un certain nombre d'erreurs. Ça, c'est des choses qui seraient très intéressantes. Et pour le coup, c'est plutôt pas mal. Effectivement, un des gros avantages de TypeScript...
Ça, on peut le faire via Google Closure ou tout ce genre d'outils.
Mais oui, il y a d'autres outils pour ça, tout à fait, absolument. Mais encore une fois, une vérification de type au runtime, ça a un coût aussi. Et donc après, il y a des questions de performance qui rentrent en ligne de compte. Donc c'est pour ça qu'on préfère que ce soit nativement dans la machine virtuelle plutôt que par un truc qui vienne se mettre par-dessus.
On a créé plusieurs concepts de conception justement vis-à-vis du web depuis plus de 25 ans. On a parlé justement, puisqu'on j'ai évoqué ton livre, le principe d'un site responsive, de l'adaptation, de la dégradation élégante, justement d'accessibilité et tout le reste. Est-ce que finalement le site le plus responsive, le plus rapide dans l'index Lighthouse de Chrome, est-ce que ça reste la bonne vieille page du site perdu.com? Qui est en HTML1, je tiens à préciser.
Ouais, bien sûr. Oui.
Je tiens à vérifier, dans l'index Lighthouse de Chrome, il fait 100%, mais il y a quand même des petits trucs qui sont 15% au rouge, quand même.
Alors, l'index Lighthouse de Chrome, il est intéressant, mais c'est jamais qu'un indicateur. Moi, je peux te faire une page web 100% inaccessible et qui passe tous les checks Lighthouse en 100%, quoi. Les outils ne sont que des indicateurs, c'est tout. Premier point. Et deuxième point, tu peux effectivement te dire le meilleur moyen d'être accessible, robuste, tout ce que tu veux, c'est de ne faire que du HTML. Je fais même pas de CSS et j'oublie complètement JavaScript. Ouais, si tu veux. Sauf que si tu me fais une page HTML à coup de balise div et span, écris-moi un fichier texte brut, on va gagner du temps.
CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Jérémy Patonnier, web advocate pour Zenica, pour faire un state of the art du web en 2021. Et justement, a priori, depuis le 1er janvier 2021, donc Flash est définitivement mort. Alors, est-ce que tu as fêté ça?
Non, j'ai pas spécialement fait ça.
Est-ce que avec trois autres copains, tu as pris un cercueil et tu as commencé à zouker dans la rue?
Non, ça, moi, je l'ai fait il y a 5 ans. Je l'ai fait il y a 5 ans quand Adobe a annoncé la fin de vie de Flash. En fait. Pour être tout à fait transparent, pour moi et pour tout ce que je faisais, tous les projets que j'ai pu faire, ça fait effectivement 5-10 ans que Flash, c'est même plus une option viable. La dernière raison qui était à peu près viable il y a une dizaine d'années d'utiliser Flash, c'était vraiment la vidéo. Mais très très rapidement, les efforts qui ont été faits autour de HTML et de la balise vidéo et de l'encodage de la vidéo pour le web, etc., font que voilà, l'attrait a été perdu très vite. Donc pour moi, en vrai, Flash, il est mort depuis bien plus longtemps que cette année, quoi. Donc pour moi, janvier 2021, c'était ouais, d'accord, super. C'est plutôt la dernière pelletée sur la tombe que de commencer à creuser le trou, quoi.
Faudrait que je vérifie, mais je crois que ça correspond aux 10 ans de la balise vidéo, ou même un... Non, 12 ans, un truc comme ça. Est-ce qu'il y a néanmoins des fonctions ou des contenus qui étaient bien et qui te rendent nostalgique du Flash?
Ah, mais carrément.
T'es pas obligé de répondre à la série animée Pouka?
Non, parce que déjà, Pouka, j'ai jamais regardé.
Je t'enverrai le lien.
Ouais, volontiers.
Surtout qu'on enregistre le nouvel an chinois, en plus.
Alors, moi je vais être bien clair, hein. Quand je dis ça fait 10 ans que je n'utilise pas Flash, c'est vrai, mais par contre, dans les années 2000, j'en ai fait du Flash et j'ai adoré. Et c'était génial parce qu'effectivement, ça permettait de faire des trucs qu'on ne pouvait pas faire dans les navigateurs de l'époque.
Bah déjà, on avait un IDE qui était absolument terrifiant pour l'époque.
Hein. Génial. Et toujours, son successeur, Adobe Animate, reste extrêmement pertinent pour faire ce qu'il a toujours su faire, à savoir de l'animation, quoi. Tant je ne suis pas hyper convaincu par ce qui est produit par le navigateur, autant l'IDE est top, quoi. Flash, vraiment, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était en avance sur son temps. Fin des années 90, Future Splash, puis qui devient Flash, puis qui est racheté par Adobe, etc. C'était vraiment topissime. En particulier, moi, je me souviens de l'arrivée de Flash 5. C'était la révolution Flash 5, quoi. Avant Flash 5, c'était un outil d'animation. À partir de Flash 5, c'est un outil pour faire de l'application, quoi. Il y a ActionScript qui va faire des trucs de dingue et compagnie. Le truc qui m'avait scotché en flash à l'époque, c'était le jeu Dofus, le MMO Dofus. Quoi. Oh la
claque
que ça
par un éditeur qui vient du Nord d'ailleurs, hein, qu'on salue, Ankama. Ciao.
Salut Ankama, exactement. Ils ont bien grandi, ils ont fait des belles choses. Et franchement, mais Dofus, moi quand je l'ai vu arriver, mais j'étais fou quoi. Je me disais, waouh, déjà un MMO. C'était très rare à l'époque, hein. Faut se souvenir que
sur le web, c'était très rare, oui, tout
quoi. Même pas sur le web, c'était assez rare quand même. Il faut se souvenir que c'était à une époque où la DSL démarrait à peine, hein. Donc c'était pas la folie les connexions. Mais donc voilà, donc du MMO avec des animations hyper fluides, un super design très original avec une direction artistique de fou. Moi j'ai kiffé de fou, quoi. Non, vraiment, c'est mon souvenir de flash, c'est ça, quoi.
Pour leur jeu suivant, ils ont essayé de faire une application en Java et ils se sont enterrés. Ils ont perdu un temps monstre. Ils ont eu des soucis au taquet. Et puisque tu parlais justement d'ActionScript, ActionScript est dérivé d'ailleurs du JavaScript. Et à l'époque, Macromedia et Mozilla s'étaient associés d'ailleurs pour faire progresser JavaScript. Ce qui est assez intéressant de voir justement ce que ça a mené finalement.
Voilà, il y a eu plein d'histoires autour de ça. ActionScript, c'est effectivement ce qu'aurait dû être ECMAScript 6, mais il y a eu plein d'histoires, enfin je vous épargne les histoires de l'époque et compagnie, bref, voilà. En fait, ce qui s'est passé, il y avait eu des discussions sur vers quoi on voulait faire évoluer ECMAScript à l'époque, qui ont traîné des années et des années parce que personne n'était d'accord. Donc Macromedia avait fait une première implémentation avec ActionScript, et donc ActionScript donnait une belle idée de ce que ça aurait pu devenir. Puis finalement, ça n'a pas suivi cette voie-là, ça a suivi une autre voie, qui est celle qu'on connaît aujourd'hui. Mais surtout pour moi, ce qui a été le plus significatif, ça a été quand Adobe a racheté Macromedia et qu'ils ont ouvert la machine virtuelle de ActionScript, qui était sous le nom de code Projet Tamarin et qui a été réutilisé par Mozilla pour améliorer son moteur JavaScript. Et donc si aujourd'hui Firefox a un moteur JavaScript qui fait la course avec celui de Google Chrome, ben c'est grâce à Adobe.
Comme quoi, c'est assez amusant. Quand est-ce qu'a dérapé le web ? Quand on a voulu en faire un OS mobile comme Tizen ou Firefox OS ? Quand un navigateur a dépassé 80% de part de marché en nombre d'utilisateurs ? Ou quand on a voulu transformer le web, qui était un protocole documentaire, en un protocole d'applicatif ?
Ça, je pense que c'est quelque chose où, selon quand tu as découvert le web, tu vas avoir une réponse un peu différente à ça. Parmi les gens les plus anciens que je connaisse qui travaillent sur le web, certains n'hésiteront pas à dire c'est le jour où dans le navigateur Mosaic il y a eu la balise IMG qui est arrivée. À partir de ce jour-là, le texte était fini, il commençait à foutre des images, c'était n'importe quoi. Moi, je pense que le jour où on a ouvert la boîte de Pandore, la vraie, c'est en 1996 à la sortie de Netscape 3 et Netscape qui met JavaScript dans le navigateur. Là, on a ouvert la boîte de Pandore. Là, c'est à ce moment-là où tout d'un coup, c'est plus que du déclaratif. On peut faire de la programmation impérative. On peut faire des trucs. Ça a mis plus de 10 ans avant que les gens réalisent ce qu'on pouvait vraiment faire avec. En parallèle de ça, à l'époque, il y a Microsoft qui a plein d'idées sur comment on peut utiliser justement ce langage de script pour faire plein de trucs géniaux. Mais ça prend du temps parce que voilà, les années 2000, gros marasme, un seul navigateur qui domine tout, plus personne qui innove sur du côté navigateur, bref, le bordel. Là où ça commence vraiment à partir en vrille totale, c'est au tournant des années 2010-2011, quand le Google Chrome devient un navigateur que les gens considèrent comme étant un bon navigateur. En 2008 ou 2006 ou 2008, je sais plus, Google décide de faire son propre navigateur. Il y avait une raison à ça, hein, c'est que Google, ils étaient en mode nous on fabrique des applications. Ils étaient déjà dans cette mouvance là, ils avaient compris que JavaScript leur permettait de faire autre chose que des documents textes.
En 2005, ça a été la claque avec Gmail.
Exactement, voilà, il y avait Gmail qui était là, ils étaient en train de travailler sur les Google Apps, donc Google Docs, Google Calendar, tous ces trucs là. Et le problème qu'ils avaient à l'époque, c'est que les navigateurs de l'époque, aussi bien Firefox 3 que Internet Explorer 6 et compagnie, c'était des navigateurs qui étaient lents, mais lents. C'était atroce. Et donc forcément, quand tu veux exécuter des scripts, tu veux une exécution rapide. Des navigateurs lents, c'est bien quand tu fais du document parce que tu n'as pas grand-chose à faire. Quand tu veux faire des applications, il faut que ça booste un peu plus, quoi. Donc, bah voilà, Google Chrome, ils font Google Chrome et ils disent, allez, nous, notre objectif, c'est de faire un navigateur rapide. Et c'est tout ce qui compte. Et c'est tout ce qu'ils font. Et ils le font très, très bien. Effectivement, Google Chrome est un navigateur qui, à l'époque, juste atomise les performances de tout le monde, quoi. Et c'est à partir de là qu'effectivement, il y a cette idée de se dire, ah ben donc, on peut faire des applications dans le navigateur. On va appeler ça comme ça. Et c'est quand même une énorme volonté de la part de Google de pousser ce paradigme-là. Et effectivement, depuis 2010-2011, grosso modo, hein, c'est dans ces eaux-là, tout ce que va faire Google, c'est d'augmenter la surface d'API de JavaScript. C'est vraiment ça leur objectif. Et effectivement, les 10 dernières années, on a vu une explosion du nombre d'API impératives qui permettent de programmer tout et n'importe quoi dans le navigateur. Et ça a été la jungle, hein, je veux dire. Les 10 dernières années, elles ont pas été hyper fun de ce point de vue-là. Vraiment, ça a été dur. Pour moi, il y a ces deux moments. Il y a 1996 et 2010, grosso modo.
Eric Daspé a écrit un billet, si je me trompe, bah, c'était début février 2021, qu'il a titré sur un mode provocateur, c'était mieux avant tous ces sites pleins de JavaScript, où en fait, ben, il dit exactement l'inverse. Et toi, finalement, quel est ton avis? Je ne te demande pas de relancer Eric Daspé, on sait que vous êtes capable de passes d'armes.
On se connaît bien.
Des passes d'armes homériques sur scène qui sont assez rigolotes. Mais quand même.
Et toujours est-il que, alors moi déjà, quand on me dit c'était mieux avant, non, c'était pas mieux avant, c'était de la merde avant. Les gens qui disent c'était mieux avant, c'est qu'ils l'ont pas connu. Hein. Je veux dire, moi j'ai connu le web quand on avait des modems 56K. Excuse-moi, je suis très content d'avoir la fibre actuellement à la maison. Hein, faut pas déconner. c'était pas mieux avant, c'était différent. Et effectivement, le web, comme c'est ce que je te disais au tout début, hein, le web d'il y a 20 ans, il existe toujours. C'est juste qu'il y a un autre web qui est venu en plus et qu'il y a plusieurs autres webs qui se sont superposés les uns à côté des autres et qui font des choses très différentes. Il y a de la place pour tout le monde. Tout va bien. C'est devenu sans doute plus dur pour les professionnels parce qu'effectivement, il y a plus de choses à savoir. L'outillage est devenu compliqué et compagnie. Mais si demain, tu as envie de faire une petite page web HTML pour toi et ta famille, eh ben, il n'y a pas de problème. Ça se fait bien, ça marche bien, il n'y a pas de problème. Si tu veux faire un concurrent Google Apps, effectivement, ça va être un peu compliqué. Voilà, on est bien d'accord. Après, il y a des choses qu'on peut regretter, mais moi, je le regrette depuis 20 ans. C'est-à-dire que depuis 20 ans, je constate les mêmes choses. Hein. Il y a une espèce de course à l'armement qui se fait. Je veux faire plus de choses, donc on augmente ce que le langage peut faire, mais comme je peux faire plus de choses, je veux faire encore plus de choses. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, l'augmentation de la surface d'API qui est exponentielle. Bon, là, c'est en train de se calmer un peu, mais c'est pas plus mal. Mais en même temps, il y a l'augmentation de la bande passante fait que, bah, mécaniquement, on va consommer plus de bande passante. On va faire moins attention à la taille de ces images, des choses comme ça, parce que, bah, ça passe. Voilà, il y a rien qui nous dit ah bah non ça passe pas, ton site il est lent et compagnie. Mais en même temps, pourquoi les infrastructures elles ont augmenté? Ben parce que les gens ils essayaient de faire passer des trucs énormes dans les tuyaux, quoi. C'est une espèce de spirale qui se développe toute seule. Pour autant, est-ce que on peut pas faire mieux? Bah si, on peut faire mieux. Mais c'est pas une question technique, c'est pas une question d'outils, c'est une question de pratique qu'on va avoir les uns les autres. C'est pas à coup de règles que ça s'édicte, c'est à coup de travail. Moi, je sais qu'aujourd'hui, le plus gros sujet que j'ai, c'est pas tant une problématique technique de se dire aujourd'hui c'est trop compliqué, aujourd'hui c'est trop volumineux, aujourd'hui c'est mal optimisé. Oui, bien sûr, je suis complètement d'accord avec tout ça. Mais c'est pour ça que moi, ce sur quoi je me concentre, c'est sur la formation des jeunes développeurs, leur expliquer les fondamentaux, leur apprendre à faire mieux avec moins. Voilà, c'est toutes ces questions-là. Moi, c'est plus une question aujourd'hui d'éducation. Quand je dis éducation, c'est au sens formation professionnelle. C'est pas éducation au sens prise de conscience. C'est vraiment juste, il y a un déficit de connaissances pures chez beaucoup de développeurs web aujourd'hui. Et donc, c'est plutôt sur cet axe-là que moi, je vais préférer travailler.
Il n'y a pas que les développeurs, il y a aussi le monde civil, si je puis dire, et le monde politique, puisqu'il y a une grande prise de conscience que tout d'un coup, le numérique prend et consomme énormément de ressources énergétiques et tout ça. Et c'est des chiffres qui souvent semblent douteux. Alors, par acquis de conscience, j'ai vérifié, j'ai rentré donc la page de garde de CPU, cpu.pm, sur un site spécialisé qui vérifie la consommation électrique à partir d'un vrai téléphone, un Samsung Galaxy S7, donc c'est pas un téléphone relativement récent, hein, mais quand même. Et j'ai noté que donc notre page de garde ne consomme que 3,89 milliampères-heure, à comparer, c'est plus du triple d'ailleurs, pour un fameux site think tank supposé féru d'écologie et qui donne des leçons à tout le monde. Donc déjà, je me marre. C'est pas la première fois quand même que des députés parlent de légiférer sur l'efficience énergétique dans la programmation informatique, etc. Est-ce que d'après toi, c'est faisable ?
Oh là là.
Ah, je m'attendais à une crise de fou rire, à une démentielle. Non, là, ça a été le soupir, d'accord.
Ah non, mais moi, quand j'entends.
Je suis obligé de faire l'audio description, hein, tu m'excuses.
Non, mais moi, ce genre de truc, ça me rend toujours un peu. Ça me crispe toujours un petit peu parce que l'idée qu'on va résoudre le problème par la législation. En admettant qu'elle soit faite au bon endroit, mais j'ai envie de dire, si tu veux réduire la consommation globale énergétique des sites web, c'est très facile, hein. Tu brides la bande passante des gens. Forcément, on va faire moins de code, moins d'images, moins de trucs qui consomment, moins de vidéos, moins de tous ces trucs-là, et tu vas voir, hein, on consommera moins d'énergie. Sauf que ça va énerver tout le monde. Hein. Parce que tout le monde veut pouvoir regarder Netflix, tout le monde veut pouvoir utiliser son Gmail dans son navigateur, voilà.
Et c'est aussi une manière de réduire l'accès à la communication, je veux dire, voilà, à ceux qui ne monopolisent pas les médias.
Voilà, ça pose beaucoup de questions qui sont, voilà. Moi, disons que je serais, encore une fois, c'est ce que je dis tout à l'heure, moi, mon axe d'action sur ces questions-là, c'est vraiment la formation. C'est, il faut former les gens à fabriquer du web correctement. Il faut former les gens à utiliser du web correctement aussi. Moi, je regrette beaucoup que que le développement web, que l'utilisation d'Internet, que tout ce qu'on appelle l'information aux médias, on n'en fasse pas plus à l'école, tout simplement. Voilà, je veux dire, faire du développement web, moi, en une demi-journée, je peux apprendre à quelqu'un à fabriquer une page web pour lui donner les connaissances de base.
En ce moment, on est vendredi 12 février 2021, il y a en ce moment le retour par des amendements de la loi Avia dans le projet de loi sur le séparatisme. Il était question de faire un permis d'accès à Internet. Est-ce que toi, finalement, tu dis, non, c'est pas si débile que ça, un peu comme faire passer le permis d'être piéton, le permis d'être cycliste, comme on faisait en troisième.
Alors, essaye pas de me foutre de ce genre de propos débiles dans la bouche, là, ça va pas bien se passer.
Non, mais je demande une clarification.
Bien sûr, bien sûr.
Je cherche pas le clash quand même.
Non, alors moi, ces histoires de permis de, autorisation de, non, ça marche pas comme ça. On ne donne pas aux gens une petite carte qui leur dit t'as le droit de faire le con. Ça marche pas comme ça. On rend les gens responsables, on fait de l'éducation, on fait de la formation. On leur donne pas des tickets de bons conducteurs. Ça marche pas comme ça.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile. Et nous sommes avec Jérémy Patonnier, web advocate pour Zenica, pour faire un state of the art du web en 2021. Et en 2021, est-ce qu'avec les bibliothèques JavaScript d'applicatifs comme React, Vue et j'en passe, et CSS in JS, est-ce qu'on n'aurait pas un peu perdu de vue la sémantique?
Ah, j'adore cette question parce que j'avais cette discussion avec des collègues pas plus tard qu'il y a 2 mois, exactement là-dessus, où certains de mes collègues viennent me montrer un petit framework qu'ils ont fait, 2 composants pour React, super, très bien, je regarde le truc, et le premier truc que je regarde, c'est de dire, et sinon, fais voir le HTML que ça génère, il me montre une magnifique soupe de div, 0 sémantique HTML, et je leur dis, les gars, c'est super votre jeu de composants, hein, mais il n'est pas accessible. Voilà.
Oui, non, mais c'est les handicapés, c'est pas important.
Ah non, 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 c'est moi qui utilise ça. C'est moi qui utilise des extensions dans mon navigateur pour extraire des choses des pages pour mieux les comprendre, mieux les lire, mieux naviguer dedans, etc. Bref, toujours est-il que effectivement la connaissance de HTML, la connaissance de CSS, la connaissance de JavaScript à la vanille, c'est-à-dire sans framework par-dessus, c'est important et c'est ça qui fait qu'on est un bon développeur web. Après, utiliser des outils qui te simplifient la vie, mais oui, bien sûr, évidemment, que tu as envie d'utiliser CSS in JS, que tu as envie d'utiliser Style Component, que tu as envie d'utiliser React, Vue, Hyper HTML, que sais-je. Bien sûr, fais-le, mais fais-le en connaissance de cause. Il faut que tu saches ce que tu es en train de manipuler, il faut que tu saches à quoi ça sert, il faut que tu t'en serves correctement. Si c'est juste pour masquer ton incompétence, bon, bah forcément, ça va pas bien se passer. Mais bon, je vais pas m'en plaindre, c'est ça qui me donne du boulot aujourd'hui, hein, donc tout va bien.
On a dit qu'on insultait pas les clients.
J'insulte pas mes clients, j'insulte les gens qu'elles embauchent ou qu'elles missionnent et qui sont pas compétents, c'est tout.
Et sur l'accessibilité sur le web, c'est un sujet qu'on aurait voulu traiter beaucoup plus sérieusement d'ailleurs dans CPU qu'on avait déjà fait en partie. Et on mériterait de remettre une couche, mais on rappellera que justement des moteurs de recherche, puisque tout le monde parle d'essayer de monter le plus haut possible dans les résultats de Google, les moteurs de recherche, comme ils sont basés aux États-Unis, ils relèvent d'une loi qui s'appelle la loi 509 sur l'accessibilité. Ils doivent donner une prime justement aux sites les plus accessibles. Et ça, ce serait bien de le rappeler à pas mal de gens.
Ah, c'est un petit peu plus subtil que ça, mais on va peut-être pas épiloguer là-dessus.
Oui, sinon ça, le SEO et tout ça, ça va être un peu complexe. Ouais. Et justement, revenons à Google. Google avait sorti.
Alors, attends, je
vas-y, pardon.
Juste, c'est la 508, pas 509, aux États-Unis.
C'est la fatigue. Et revenons justement à Google. Google avait sorti il y a environ 5 ans, si je me trompe, un HTML Redux qui s'appelle AMP. Est-ce que pour toi, c'est une bonne idée? Jusqu'où? AMP, c'est vraiment du HTML minimaliste avec plein de petits hacks qui sont super intéressants et de la bibliothèque JavaScript à insérer qui, elle, par contre, est un poil lourde. Alors, toi, quel est ton avis là-dedans?
Alors, AMP, c'est un projet qui a beaucoup évolué, il a beaucoup changé. Au tout début où il est arrivé, moi, je me suis intéressé à la question parce que j'étais très hype par le fait de dire « Ah, là, au moins, on a un vrai catalogue de bonnes pratiques sur comment faire du web efficient, minimaliste, etc. » Donc, moi, ça me plaisait bien. Très vite, Google, ils ont fait une erreur, c'est qu'ils ont fait leur Google, dans le sens où ils ont dit « Si vous faites des sites qui suivent ce qu'on a défini dans AMP, vous aurez un bonus de référencement dans le moteur de recherche Google. » À cette seconde-là, j'ai dit « Non, je suis pas d'accord. Ça, c'est pas possible. C'est un abus total. » Donc, à partir de cet instant-là, j'ai arrêté de regarder AMP. J'ai dit « Ça, je ne veux même pas savoir. C'est un non définitif. Là, c'est un abus total de la position de Google, hein, sur le marché pour influencer la façon de faire du web. Et ça, moi, je suis pas d'accord. Je suis quand même pas complètement idiot et j'ai regardé un petit peu comment avait évolué AMP. Et AMP, en fait, a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, ce que c'est devenu, c'est un jeu de web component. Donc, les web components, pareil, c'est une technologie qui est dans les navigateurs qui permet, en fait, de créer des éléments HTML customisés. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant d'avoir une bibliothèque d'éléments faits sur mesure qui vont respecter un certain nombre de bonnes pratiques sur la performance, la simplicité, l'accessibilité, tout ce que tu veux. Si c'est juste un jeu de web component, eh ben, il y en a d'autres. Je vois pas pourquoi je m'emmerderais à utiliser spécialement AMP, si j'ai des besoins différents, autres, etc. Et surtout, pour utiliser un truc qui est fait par Google, alors qu'il y a potentiellement autre chose qu'on peut faire.
Est-ce que tu as connu Gopher? Le protocole qui précède de très très peu le protocole du web.
Ouais, j'en ai entendu parler, moi je l'ai jamais vraiment, j'ai jamais utilisé, on m'en a parlé quoi, c'est tout.
On parlait de simplifier le web et je parlais de Gopher, c'était pour introduire justement un nouveau protocole qui fait sa hype depuis 6 mois, qui s'appelle Gemini, qui est basé sur un langage qui s'appelle Markdown, donc un langage descriptif avec délimitation, c'est-à-dire un seul lien possible par ligne de texte, pas d'extension possible du dit protocole, délimitations qui sont voulues et l'idée de figer une fois pour toutes Gemini sans possibilité de l'étendre. Est-ce que tu as regardé? Est-ce que tu as essayé le navigateur? Est-ce que tu as essayé de faire un site?
Alors, j'ai regardé, mais je n'ai pas spécialement essayé. J'ai regardé un peu la page manifeste FAQ qui explique un peu le projet et compagnie. Moi, à la base, je ne suis pas super hypé par le projet. Mais pour une raison toute couillonne, hein, comme je le disais au début, moi, mes racines plongent dans le design et les trucs pur texte, c'est pas mon délire. Moi, il faut qu'il y ait de l'image, faut qu'il y ait de la mise en forme, faut qu'il y ait du travail graphique avec. Donc, s'il n'y a pas cette dimension-là, en général, je suis pas plus intéressé que ça. Mais sinon, après, Gemini, malgré tout, je suis assez intéressé par les constats qu'ils font. Les constats qu'ils font sur justement l'obésité morbide du web, les abus qui sont faits des technologies pour mettre en place des pratiques de tracking, de détournement, de données personnelles, ce genre de trucs-là. Je suis tout à fait en phase avec le constat qu'ils en font. Par contre, je suis pas forcément convaincu par la réponse qu'ils y amènent. La réponse qui est de dire on va recréer une espèce de réseau à côté, pourquoi pas. Moi je trouve que par certains aspects c'est un peu réinventer la roue. Alors c'est bien, si encore une fois, si tu viens de l'environnement Gopher, BBS, tous ces choses là je comprends qu'on veuille faire quelque chose d'un peu plus moderne, un peu plus malin, avec la sécurité au cœur de la réflexion, etc. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Et pour le coup, il y a pas mal de choses que j'ai trouvé passionnantes de ce point de vue-là dans Gemini, en particulier tout le travail qu'ils font autour du chiffrement et de l'usage de TLS pour vraiment faire plus que du chiffrement, faire de l'authentification, faire de la reconnaissance, des choses comme ça. Je trouve ça vraiment, vraiment très, très, très malin et très bien pensé.
En plus, le pire, c'est que ça existait déjà dans les navigateurs, le certificat côté client.
Ouais.
Et il n'y a pas d'interface. En plus, c'est hyper vieux, ça a 20 ans.
Oui, non, mais bien sûr. Mais après, les navigateurs, le problème, c'est pas tant ce qu'ils savent faire que comment ils l'exposent aux utilisateurs. Et effectivement, de ce point de vue-là, toute la partie certificat, chiffrage, compagnie, c'est pas fifou hein, dans les navigateurs. Faut se le dire, quoi. Il y a de l'information qui est affichée, mais pour vraiment mettre en place des choses.
Pour en revenir à Gemini, est-ce que finalement ce n'est pas une très bonne idée en termes d'accessibilité ou de confort d'usage, puisque l'utilisateur a le contrôle total sur le niveau de contraste, la taille des polices, sans que ce soit quelqu'un d'autre qui le décide à sa place?
Je vois pas ce que ça change, hein. Dans un navigateur tu peux le faire aussi, hein. Donc pour moi c'est un faux argument, ça.
Le mode lecture.
Ouais, exactement, ouais, tout à fait. Non, pour moi, ça, c'est pas un argument qui tient. Par contre, l'argument qui tient, c'est de dire, comme c'est orienté texte, bah, forcément, t'auras pas des abus à la con du genre des documents sans fin pour arriver à avoir trois paragraphes pertinents, des trucs comme ça. Oui, évidemment, ça, c'est plus intéressant. Forcément, on enlève le gras inutile. Ça, ouais, je peux comprendre. Bien sûr. Pour autant, est-ce que l'expérience sera vraiment meilleure? Bah, ça dépend. Ça dépend ce que tu cherches, encore une fois. Si ton objectif, c'est d'avoir un web documentaire et de n'avoir accès que à des documents et dont tu définis toi seul leur mise en forme, Gemini, c'est génial. C'est ça qu'il te faut. D'ailleurs, vas-y. Sauf que moi, ça, j'ai pas envie de coder un client, j'ai pas envie de coder un serveur, j'ai pas envie de juste lire du texte. Moi, j'aime bien aussi, encore une fois, l'information et les messages, ils passent pas que par le texte. Moi, je suis quelqu'un qui pense fermement que l'image, la mise en forme, c'est aussi une façon de véhiculer de l'information et qu'elle est importante. Et dire qu'on fait comme ça, non. Une alternative à Gemini qui m'intéresserait plus, pour le coup, ce serait quelqu'un qui dirait « je vais prendre un navigateur existant et je vais enlever tous les trucs qui sont pas intéressants ». Et typiquement, plus exactement, je garderai juste HTML, CSS. J'enlèverai complètement JavaScript, genre 0JS, ni plus ni moins. Et je ferai en sorte que ce qui se balade sur le réseau, ce soit que ce qui est pertinent pour avoir accès à la ressource, et c'est tout. Ça répondrait à plein des points que soulève Gemini, pas à tous, pour le coup, hein, ils ont expliqué pourquoi ils pensent que c'est pas une solution viable, ce que je suis en train d'expliquer. Je suis pas d'accord avec eux, mais encore une fois, c'est leur choix. Hein.
Pour toi, ça n'est pas une curiosité, un jouet de geek, tu penses que peut-être il pourrait avoir ses chances dans un domaine très particulier. Hein. Bon, attention, alors, hein, attention, je te préviens.
Ça dépend.
Je te préviens, quelle que soit ta réponse, tu pourrais te fâcher avec des gens. Et je tiens à dire que je me désolidarise d'entrée de tout ce qu'il peut avoir comme réponse.
Alors, en l'état actuel des choses, c'est un pur jouet de geek et ça s'arrêtera là. En particulier, la chose qui fait que, pour l'instant, de mon point de vue, ça n'évoluera pas en dehors d'une sphère de quelques personnes isolées, c'est juste la façon dont le projet est verrouillé. Aujourd'hui, le projet est totalement verrouillé, c'est-à-dire que, en termes de gouvernance, c'est une personne qui décide ce qui s'y passe. C'est par design, Gemini n'est pas évolutif, c'est un choix qui a été fait. Très bien. Pour moi, c'est les deux raisons qui font que ça ne sera jamais plus qu'un outil de personnes qui croient fermement au manifesto de Gemini, et ça s'arrêtera là. Le grand public ne pourra pas adhérer à ce genre de choses-là.
Je tiens à signaler d'ailleurs une remarque qui a été extrêmement intéressante en critique de Gemini, justement, que ça soit très verrouillé sur la manière d'extension, c'est que ça va reposer sur un protocole de chiffrement qui, du coup, est intégré à bas niveau. Mais le problème, ce système de chiffrement est destiné à être obsolète dans les 4-5 ans grand max. Donc ça pose déjà beaucoup de problèmes sur l'évolution, l'évolutivité.
Ceci dit, quand même, je rebondis sur ce que tu dis, parce que malgré tout, le fait que, en l'état actuel du projet, je pense que c'est vraiment un projet de niche qui touche des gens très particuliers, néanmoins, il a le potentiel de devenir plus, comme étant en fait plutôt un incubateur pour quelque chose d'autre.
Ça, là-dessus, je te suis même totalement, pardon, excuse-moi. On a parlé dans la précédente partie de cette émission, donc de l'efficacité énergétique des pages web. Est-ce que tu as vu de fausses bonnes idées? Par exemple, que penses-tu de l'idée d'envoyer des pages monochromes tramées, ce que j'ai vu d'ailleurs plus d'une fois, ou de faire des images sur fond noir pour avoir le texte en blanc, pour que les écrans OLED consomment beaucoup moins?
C'est complètement con. Non, c'est pas complètement con, mais c'est très anecdotique comme truc. Tous les gens qui veulent vraiment travailler sur la consommation énergétique, c'est comme d'habitude, plutôt que d'aller vous perdre dans ce genre de truc qui résolvent un problème extrêmement marginal de comment est-ce que mon écran il consomme moins d'énergie. Déjà, si c'est votre problème, convainquez les gens d'acheter des écrans qui consomment moins d'énergie. Ça existe, hein, tous les écrans ne se valent pas de ce point de vue-là. Mais surtout, regardez votre code JavaScript et arrêtez d'utiliser cet intervalle. Voilà, hein, déjà. Ça, c'est une vraie bonne idée. ce genre de truc-là, évitez de faire des animations qui tournent en boucle, surtout si on ne les voit pas. Voilà, ce genre de truc-là. Ça, c'est des vrais trucs auxquels il faut faire attention. Vous voulez travailler sur vos images? Très bien. Plutôt que de m'envoyer une image en noir et blanc, envoyez-moi une image juste moins lourde, qui consomme moins de bande passante, qui consomme moins d'espace sur vos serveurs, et donc de facto qui consomme globalement moins d'énergie à tous les niveaux de la chaîne.
De toute façon, ça a un tel pouillème tellement minimaliste que rien que l'énergie utilisée pour allumer l'écran fait que ça vaut même pas 0,1% du total.
En vrai, pour la consommation d'énergie, pour moi, c'est un peu les mêmes discussions que j'avais vues il y a quelques années quand on commençait à vraiment se poser des questions de fond sur l'accessibilité, sur ces choses-là. Plutôt que d'essayer de trouver des réponses anecdotiques, posez-vous les bonnes questions en vous disant comment est-ce que je peux faire la même chose que ce que je fais actuellement, mais en optimisant tout. Faites de l'optimisation sur tout. Sur la taille de vos images, sur les cycles de CPU de vos scripts, toutes ces choses-là. Vous allez déjà faire beaucoup, beaucoup, beaucoup des choses qui sont vachement plus efficaces et plus sensibles que de vouloir mettre des images en noir et blanc. Enfin, bon, bref.
Je repose la question directrice de cette interview. Le web est-il devenu un projet trop gros?
Ah, comme ça, là. C'est brut de décoffrage, faut que je te réponde à ces questions-là.
C'est quoi. La dernière. Après, on ne sera plus un ami, c'est tout.
Alors, c'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on appelle trop gros par rapport à quoi. C'est plus une problématique de gestion de ressources qu'une problématique de gros ou pas gros. Le web en lui-même, encore une fois, hein, c'est jamais qu'un média, c'est jamais que publier de l'information et interagir avec. Voilà, c'est juste ça. Il est devenu gros dans le sens où, ben oui, il y a beaucoup plus d'utilisateurs, mais j'ai envie de dire, depuis 20 ans que c'est mon métier, ça fait 20 ans que c'est l'objectif de tout le monde, d'avoir toujours plus d'utilisateurs. Donc on va pas s'en plaindre non plus, hein, ça c'est sûr. Est-ce qu'il est devenu plus compliqué? Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir un web moins compliqué? Sans doute. Est-ce qu'on a les moyens de le rendre moins compliqué? Oui et non. Oui, parce que, encore une fois, si vous êtes développeur web, vous avez la possibilité de bien faire votre travail, d'économiser les ressources, de faire en sorte d'avoir des outils qui travaillent, qui sont moins dépendants du réseau, qui sont plus faciles à transporter, tout ce qu'on veut. Mais en même temps, on est contraint par le fait qu'aujourd'hui, on a des très grands acteurs qui ont des intérêts assez brutaux vis-à-vis de ce que doit devenir le web, Google en tête, hein, je vais être tout à fait transparent, moi, Google, je les ai vus arriver et dévorer le marché, et aujourd'hui, je suis extrêmement réservé vis-à-vis des choix qu'ils font sur le web, justement. Il y a d'autres éléments que je maîtrise pas du tout d'informatique, sur lesquels ils sont sans doute très pertinents, mais je n'aurai rien à dire sur la question, mais sur le web, en particulier, aujourd'hui, la domination totale qu'est Google Chrome me pose problème. C'est aujourd'hui le cœur du problème. Pour moi, il est plus ça qu'une question de volume ou de complexité. Il y a quelque chose qui va quand même de pair, mais qui n'est pas lié, pour le coup, à Google, mais qui est lié à l'usage. C'est qu'il y a une espèce de délire qui s'est emparé de beaucoup de gens sur le « tout doit devenir numérique ». Absolument. Tout doit passer par le web. Non. Non, tout ne doit pas passer par le web. Il y a des choses qui marchent très très bien. Il n'y a pas de raison de ne pas continuer à les utiliser. Si le web, vous l'utilisez pour améliorer des choses, très bien. Si vous l'utilisez pour remplacer des choses, il y a des chances que vous soyez à côté de la plaque. Et si c'est pour vraiment faire des trucs qui ne sont pas très utiles, bon, bah, ça, on va dire, c'est dommage, mais c'est la vie. Voilà. Donc, c'est pas une question de trop gros, c'est une question de comment c'est utilisé ou dans quelles circonstances. Parmi les trucs que je regrette, par exemple, moi, je regrette certains virages tout numériques que fait l'administration, par exemple, qui est, pour certains aspects, extrêmement souhaitable et très bien, et par d'autres, complètement idiot et pas du tout souhaitable. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, c'est pas moi qui vais le dire. C'est des choses qui vont se décanter à force. Est-ce que le web est devenu trop gros? Cette question, elle a pas trop de sens pour moi. Le web, il est ce qu'on en fait. Et chacun, individuellement, le web, c'est ce qu'on en fait.
Et merci beaucoup, Jérémy Patonnier, pour avoir fait ce State of the Art du web en 2021. Un sujet de poids, un sujet évidemment massif et un sujet dans lequel on a beaucoup taillé dans le gras et discuté du bout de gras, évidemment. Et j'invite d'ailleurs les auditeurs de la version radio de l'émission, tout simplement, d'aller écouter la version longue de l'interview. Le lien est disponible sur la page de l'émission cpu.pm/157. Bon Dieu, déjà. Jérémy, merci beaucoup. Vivement à la fin du déconfinement et qu'on se revoie dans les couloirs des conférences. Au plaisir.
Salut.